Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lily Bloom, Charlotte Garçon et Lucille Como pour parler ensemble de Jeanne de Bruno Dumont, Deux mois de Cédric Clapiche. Il y aura un coup de cœur de Charlotte Garçon pour un livre DVD journal d'un maître d'école conçu à partir du film en quatre épisodes de Vittorio De Setta. C'est à l'Arachnéen. Et puis le journal de Lucille Como portera sur la comédie sociale à la française en écho à la sortie du film La vie scolaire. Nous ouvrons cette dispute avec la suite de Jeannette, à savoir Jeanne, film de Bruno Dumont. Après avoir filmé l'enfance de Jeanne, sa révélation, sa rencontre avec Charles VII, le cinéaste reprend le récit en 1429, en pleine guerre de 100 ans. Il se va s'intéresser cette fois aux batailles, aux procès, à la mort de Jeanne, toujours en se basant sur la pièce « Les mystères de la charité » de Jeanne d'Arc de Charles Péguy.
Votre faute, nous avons perdu la bataille. Vous ne savez pas parler aux soldats. Les soldats, ils veulent se battre. De la guerre, de la victoire, du sang surtout.
Celui qui dit ça, c'est le dernier des hommes.
Parlez, ma fille.
Je voulais vous parler pour vos villes, que les Anglais vont assaillir au-delà.
Laissons cela. Il est temps de vous reposer enfin.
Je m'en vais commencer la bataille à moi seule.
Seigneur. Voici l'accusé.
Elle ira dans l'enfer.
Je requiers expressément
avec
que le juge la déclare hérétique
et mort année.
Sans débat, par défaut.
Avec les condamnés.
Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne.
Alors, elle n'a plus besoin de nous.
Vous soumettez à l'église tout ce que vous avez fait?
Mais oui, mon maître, je veux bien, moi.
Tout, sans exception?
Tout, sans exception.
Sans aucune exception?
Sans aucune exception.
Jamais on n'a demandé ça à une hérétique.
À condition, bien entendu, qu'on ne parle pas de tout ce que notre sire Dieu m'a dit et commandé pour moi seul.
Les hommes sont impies. Les hommes sont cruels. Voleurs. Menteurs.
Les hommes sont comme les sous, mais il faut penser nous à ce qu'il faut que nous soyons.
Voulez-vous désavouer les réponses que vous nous avez faites?
Quand vous me feriez couper la tête et détraire tous les membres de mon corps, je vous assure que je ne renoncerai jamais à un mot de tout ce que j'ai dit.
Avant de débattre autour de ce film de Bruno Dumont, un résumé de votre sentiment à son sujet, Charlotte Garçon.
Oui, un art de l'altération qui, moi, me convainc et qui est droit dans ses bottes.
Lucille Como.
Sidérant.
Lily Bloom.
Ben moi, je dirais que c'est un film vertical, très épuré, très, très radical, qui peut choquer, mais c'est une expérience du sacré qu'on a au cinéma, remise à sa juste place dans l'art, et comme il le dit, et je trouve que c'est fascinant.
Ça, c'était la synthèse hein, de votre sentiment à ce sujet. Je repars avec celle qui a été la plus concise. Prime à la concision, Lucille Como.
Oui, c'est concis parce que je trouve que c'est pas facile à embrayer le mécanisme de l'analyse après avoir vu ce film. En plus, moi, je l'ai vu hier, donc je suis quand même vraiment toujours sous cet effet de sidération qui est assez considérable, beaucoup plus que Jeannette, donc le film précédent de Bruno Dumont qui envisageait l'enfance, enfin le début de la vie de Jeanne d'Arc, donc le moment où elle entend les voix pour la première fois et où elle décide de quitter la maison de ses parents. Là, j'ai été sidérée dès le départ. Peut-être la première image qui m'a marquée. c'est ce plan sur les dunes de sable chères à Bruno Dumont, avec cette espèce de soleil qui rend toutes les choses très blanches et très très surexposées, et l'entrée d'un personnage, je sais plus par où il rentre dans le champ, mais toutes les entrées des personnages sont absolument passionnantes dans, disons, la première partie du film, qui est donc en robe pourpre de prélat, et le caractère éclatant de ce costume, la manière dont le personnage, donc l'acteur en l'occurrence, porte le costume, tout ça m'a mis dans un état qui est vraiment un état de sidération dans lequel je suis restée, je pense, tout au long du film. Vraiment, cette manière dont les personnages entrent et sortent du champ, ça m'a beaucoup marquée, parce que j'avais pas beaucoup vu dans Jeannette l'affiliation entre Peggy et Dumont, parce que c'est une adaptation, entre guillemets, même si elle est lointaine, d'un texte de Dumont qui est une pièce de théâtre, qui est un mystère, donc au sens médiéval du terme. Là, j'ai beaucoup apprécié cette manière assez théâtrale de faire entrer les personnages en scène et de leur donner une importance, simplement en les faisant citer. Souvent, ils sont nommés, puis ils entrent dans cette espèce de non-lieu qu'est la dune au-dessus de Boulogne-sur-Mer, et qui est un non-lieu qui prend immédiatement une charge historique et symbolique immense. C'est-à-dire que quand les personnages nous disent Paris est à quelques lieues, ou Orléans il y a quelques semaines, on y croit. C'est-à-dire Paris n'est pas loin, Orléans n'est pas loin. La cathédrale d'Amiens, qu'il filme ensuite dans la seconde partie, et la cathédrale de Rouen. Il y a un pacte qui s'établit, qui est un pacte paradoxalement complètement artificiel, qui est, je trouve, assez magique dans l'effet qu'il produit sur le spectateur. C'est-à-dire que tous ces acteurs qui parlent avec des accents pas possibles, qui sont les accents du Nord, parfois à la limite de la prononciation, on comprend pas toujours très bien, qui est la méthode Dumont, ces directions qu'il pointe du doigt alors même qu'on n'est absolument pas dans le contexte, cette espèce de morceau de béton, par exemple un cube qui est sur la plage, et avec un drapeau, mais c'est pas toujours vraiment des bunkers, parfois c'est simplement, on imagine que c'est un bunker qui est à moitié immergé, mais de fait c'est vraiment une sorte de cube de béton absolument abstrait. Il suffit qu'il y ait un fanion violet à côté, et oui, on y croit, on est à Rouen, on est sur les lieux. Tout ça, ça relève d'un pacte qui, à mon avis, est assez incroyable et inédit au cinéma, qui fait que on a confiance, on a absolument confiance. C'est absolument le bûcher à la fin, c'est Jeanne d'Arc qui meurt sur le bûcher, et ça, c'est un pacte qui est de l'ordre de la foi. Enfin, s'il y a une foi quelque part dans ce film de Dumont, c'est la foi que le réalisateur a en sa capacité à faire du cinéma, et du coup la foi du spectateur à croire absolument ce qu'on est en train de voir. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Je pense que je n'ai jamais vu ça au cinéma.
Charlotte Garçon.
Oui, et peut-être que ce qui met la parole aussi en échec, enfin qui laisse un petit peu c'est que ce pacte n'est pas un pacte théâtral. Ce que vous avez décrit, ça ressemble beaucoup à du théâtre. On est habitué à des décors proches de l'abstraction au théâtre, à faire comme si. Et bien sûr, le fait qu'il ait gardé Lise Le Plat Prudhomme, qui a 10 ans, pour jouer Jeanne d'Arc à 17, 19 ans, ça nous fait penser au jeu de l'enfant, au sérieux d'un enfant qui joue et qui dit « on dirait que on serait près de Paris », alors qu'on voit bien, nous, qu'on est dans les dunes de la Côte d'Opale. Mais il me semble que c'est pas tout à fait le pacte théâtral, justement, que c'est le pacte de l'écart. On a l'impression que Bruno Dumont joue du plus grand écart possible qu'il peut y avoir, alors, entre ce décor et le naturalisme historique qu'on pourrait attendre, entre le faste de cet habit, de ce costume de prélat, et le côté désert de western, complètement nu de ces dunes. Mais cet écart, je trouve qu'il le tient de bout en bout du film, et autant je pense qu'on peut, en tant que spectateur, y répugner, autant c'est tellement cohérent, il le maintient, il a un art d'inventer à partir de cette transposition permanente. En fait, il ne fait que transplanter. Par exemple, vous disiez la cathédrale d'Amiens vaut pour le château de Rouen, mais en réalité il y a aussi une tension. Enfin, pourquoi est-ce que on est aussi impressionné? C'est parce qu'il joue du côté miniature de cette Jeanne d'Arc qui laisse enfant, et puis l'architecture, la monumentalité, qui vaut aussi bien sûr pour le pouvoir de l'Église. En fait, tout le film est fondé sur ces écarts permanents, de même que au moment de son procès, elle dit ce qu'a dit notre Sire Dieu, ce que m'a dit à moi seul notre Sire Dieu ne vous regarde pas, mais elle le dit dans cet espace où au moment où elle est jugée, donc en fait dans cet espace complètement panoptique, qui ne laisse place en réalité à aucune intimité. Donc le quant à soi qu'elle est en train d'énoncer, il est de toute façon rendu impossible par l'architecture. Bon, ça n'est qu'un exemple, mais je veux dire, c'est cet écart permanent qui crée une tension, écart aussi quand même entre le texte de Peggy et les acteurs non professionnels qui le disent. Ça, c'est, je sais que ça peut hérisser certains spectateurs.
Lily Bloom, pour parler encore de ce film de Bruno Dumont, Jeanne.
Ah oui, je suis d'accord sur la transposition. Il n'y a que ça qui l'intéresse. D'ailleurs, le réel ne l'intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'il s'amuse avec des anachronismes un peu fantasques. Effectivement, ça joue sur c'est un film qui se joue sur des écarts de langage. Quand il prend le texte de Peggy, il le prend de manière brute, vraiment. Il fait entendre les aspects les plus triviaux lorsque, d'un seul coup, il y a des gardes qui disent qu'ils n'ont pas envie d'assister à un procès d'hérétique, parce que quand on est dans le sens du vent, quand un hérétique brûle, ça sent le gras brûlé, jusqu'à des discours théoriques plus fumeux, côteleux, complexes, mais qui nous laissent entendre sans fioriture et sans effort. Mais encore une fois, on a un peu des difficultés à en parler, parce que c'est autre chose qu'un film. Je parlais d'une expérience du sacré, vous parliez de l'expérience aussi de la foi, qui n'est pas d'ailleurs forcément une foi religieuse, mais une foi tout court, une espérance sans limite. Il y a une séquence qui est très symptomatique tout au début du film et qui pour moi est un parti pris fort de la mise en scène. Il y a un long plan fixe du visage de Jeanne, de sa Jeanne, avec les yeux qui semblent transpercer l'écran et qui nous regardent avec toute leur détermination. Et ce long plan fixe est extraordinairement long. Il est tellement long que ça génère une grande tension dans la salle. Il y a de l'agacement, il y a les spectateurs ricanent. Et puis, il y a ce chant de Christophe qui est symptomatique de son ambition, qui est à la fois folle et fragile. Il est à la fois magnifique, cristallin, céleste et un petit peu ridicule. Et l'expérience qu'il nous laisse avoir, elle est une expérience à la fois du sublime et de l'embarras face à ce film-là. Et lors de ce long plan fixe qui s'étire jusqu'à la fin du chant de Christophe, eh bien finalement, c'est comme s'il attendait jusqu'à ce que le dernier spectateur dans la salle ait cédé à son parti pris et accepte son pacte. Et je trouve ça formidablement intéressant, parce que c'est entre guillemets du jamais vu, avec une économie de moyens, mais en même temps une mise en scène très affirmée, très radicale, et qui finalement s'imprègne. Moi, je l'avais vu une première fois à Cannes, et c'est par exemple ce long plan fixe, je m'en souviens, je pense que je m'en souviendrai très longtemps. Et donc il nous laisse avoir toutes ces figures-là, et ça, Jeanne m'intéresse aussi. C'est pas parce que bon, Jeanne d'Arc, ça fait un petit peu peur, ça a été hypothéqué par le FN. Il y a eu tellement de Jeanne qu'on a toujours personnellement, j'ai un petit peu d'anxiété quand je vais voir une nouvelle œuvre sur Jeanne d'Arc. Et là, finalement, comme elle est vraiment née de son amour pour le texte, elle est née des mots de la philosophie, de la poésie du texte de Charles Peggy, elle est complètement différente. Et quand elle s'incarne dans ce petit corps de Lise Le Plat Prud'homme, et bien d'un seul coup, elle devient une transfiguration du petit enfant ardent intérieur que l'on a tous et qui se débat dans l'existence face aux déconvenus de l'âge adulte, quoi.
Pour rester dans le vocabulaire religieux, parce qu'on y tient, mais pour moi, c'est vraiment, ce film tient du miracle au sens, il possède la grâce. Restons vraiment dans ce vocabulaire-là. Pour moi, c'est ça qui est absolument sidérant, pour reprendre le premier terme de Lucile Comeau, c'est qu'on est vraiment, enfin moi j'ai été tout à fait saisi du premier au dernier moment. J'avais beaucoup aimé Jeannette, mais qui était plus un geste qui me plaisait dans son presque intellectuellement. Là je suis saisi par tous mes sens devant Jeanne de Bruno Dumont, et puis ça tient quand même énormément. On l'a déjà cité deux fois, mais à Lise Le Plat Prud'homme, qui est une apparition, une incarnation extrêmement forte. Vous avez parlé de ce long plan séquence, c'est le clip plan séquence du film. Il y a d'autres moments de chant, on pourrait en reparler, mais dès le départ, hein, cet enfant dans son armure, elle tient pas droit, ça vacille, ça bouge, et le film bouge avec elle, et on a envie à la fois de la saisir, et en même temps elle dégage une telle force, il y a une telle densité dans sa présence. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est qui dépasse Bruno Dumont. Enfin, il y a une rencontre entre une enfant et un rôle, enfin, et un projet cinématographique qui tient en effet du miracle. Je dois dire que la musique de Christophe, elle est quand même, alors pas seulement dans ce moment-là, il y en aura d'autres, on ne va pas tout divulgâcher. On a déjà dit que Jeanne mourrait à la fin, donc je me suis dit, là, on peut laisser passer ça. Mais ce qui est, pour revenir encore sur une chose qu'évoquait, je crois, Lucille Como, c'est la question du convention et de la convention du cinéma et de la foi dans le cinéma. Enfin, s'il y a bien une église dans laquelle j'ai envie d'entrer, c'est celle du cinéma. Et effectivement, c'est même plus une question de convention, il y a une sorte d'évidence, de naturel. On adhère tout à fait, comme ça semble être le cas de 80% d'entre nous. Je sens un tout petit peu de réserve chez Charles Garçon. Où je pense que ce film, on le rejette totalement. Lucille Como.
Oui, je repense, quand je vous entends parler, à Arnaud, à Castellucci et au Requiem dont on a parlé il y a quelques semaines, parce qu'il y a de la même manière que chez Roméo Castellucci, chez Bruno Dumont, une sorte de confiance et de prise au sérieux d'un point de vue laïque de la chose sacrée. Et ça, c'est très difficile à faire. Je pense que ça repose sur quelque chose qui est très fin. Et je pense aussi à ce que vous disiez sur le fait que Jeanne vacille et qu'en effet, les personnages dans leur costume, on sent qu'il y a des moments où
ça joue.
Voilà, ça joue, ça vacille. Et ça, c'est extrêmement fort chez le cinéma de Dumont, de réussir à s'insérer entre l'obstination de Jeanne, qui est extrêmement bien jouée en effet par l'actrice, qui est une force assez incroyable, et cette fragilité qui est liée à son travail avec les acteurs. Et ça, c'est tenu en permanence. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi dans le film reconnaître des éléments de son dernier cinéma. Je sais que vous, Arnaud Laporte, vous n'étiez pas toujours convaincu par le dernier Bruno Dumont, un peu drôle, un peu facile, par Maloute, par Petit Quinquin. Là, je retrouvait des éléments de burlesque, d'un burlesque très simple, cinématographiquement assez situé, dans les chutes des personnages. Par exemple, il y a un moment donné, un des capitaines de Jeanne d'Arc qui arrive, il est à cheval, il tombe de son cheval en descendant parce qu'il est en côte de maille. Bon, évidemment, c'est pas pratique, puis en plus, il est sur du sable, enfin, ça, c'est pas simple. Et il tombe, et dans ces gestes-là de pur burlesque extrêmement simple, filmé vraiment simplement, il y a quelque chose d'une fragilité qui est complètement assumée et qui est mise en balance en permanence, avec l'obstination et le sacré. Et dans cet équilibre-là, il y a une grande émotion que j'ai pas du tout eu dans Jeannette. Je trouvais ça très très maîtrisé, un vrai geste.
Oui, c'était pas du de même ordre.
Là, il y a de quoi s'insérer dans des fragilités, dans des écarts, et c'est ça qui est très fort.
Charlotte Garçon.
Oui, on pourrait dire que le film aussi, à plusieurs moments, en tout cas dans mon expérience, vacille. Par exemple, l'apparition de Fabrice Luchini, qu'on a entendu dans cette bande-annonce, qui fait vraiment une sorte d'aparté en roi Charles VII qui est en train de se voilà, qui était son cher allié, et puis qui c'est en train de se gâter entre eux. Justement, c'est une sorte de bulle burlesque, et pour moi elle ne fonctionne pas dans l'intégrité de ce corps-là qu'est ce film-ci. Alors que ces essais d'humour pour Petit Quinquin, pour moi par exemple, fonctionnaient.
Alors moi, j'ai aimé Petit Quinquin, voilà, pas la suite moins, ni Maloute.
Voilà, je précise. Il fonctionnait moins dans Maloute, je suis d'accord. De même que par le passé, donc ces films plus comiques, il a utilisé vraiment l'idiotie. On pourrait dire, il est allé loin dans un certain, un travail sur vraiment les idiots, quoi, des assumés. Et là, il me semble qu'il fait autre chose. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression quand même de quelqu'un qui n'a pas trouver de système et qui cherche et contrairement, même si son héroïne est est absolument campée et déterminée, qu'elle regarde droit dans la caméra, qu'il la filme de manière frontale, etc., lui par contre il vacille aussi, il la montre elle-même en tant qu'actrice au bord de dévisser, pour employer un terme d'escalade effectivement, mais il me semble que lui aussi, voilà, il a quelques brèches, et par exemple pour moi c'est un peu raté le petit caméo de Luc Kini, c'est
une sorte petit,
Oui, voilà, c'est une sorte de scorie, et je me demande dans quelle mesure elle n'est pas là même pour faire une petite brèche dans ce côté monumental.
Lucille Como.
Oui, moi je pense qu'il regarde son cinéma aussi, et je pense que le procès de Jeanne, bon, c'est un geste tout à fait égo cinématocentré. C'est aussi le procès de son propre cinéma, de la foi qu'on peut avoir justement dans le pacte qu'il propose, qui est compliqué pour les spectateurs. Et du coup, Luchini, il rentre dans cette économie-là, qui est l'économie un peu méta. c'est un film, quoi.
Lily Bloom, pour terminer sur Jeanne de Bruno Dumont.
En fait, il a un cinéma du présent qui se confronte au présent du tournage et des accidents, je crois qu'il appelle ça les accidents d'être. Donc sa modernité, il la trouve aussi par ces accidents qui font qu'un acteur peut chuter sur une réplique, où il y a des vacillements, parfois même des regards vers le chef opérateur. Il y a un frémissement, un état fébrile, et c'est comme ça qu'il recrée le présent, et aussi un présent du spectateur qui vit l'expérience de son film. Il disait le vrai est forcément de travers, et c'est vrai, je trouve qu'il a un vrai totalement de travers, mais formidable.
Bon, j'espère qu'on vous aura convaincu d'aller voir, d'aller tenter cette expérience, d'aller voir Jeanne de Bruno Dumont, qui est sorti sur les écrans avant-hier. On va parler ensuite dans cette émission du film de Cédric Lapiche, Deux mois. Il y aura un coup de cœur de Charles Garçon et un journal tenu, on le sait, par Lucille Como.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Deux mois de Cédric Lapiche sur un scénario que le cinéaste a écrit avec Santiago Amigorena, qui est également présent dans la rentrée littéraire. L'histoire de deux solitudes à Paris aujourd'hui, de trentenaires qui vivent seuls dans des appartements mitoyens et qu'on va suivre pendant 1h50.
Bonjour. J'ai un problème de sommeil. J'ai un problème de sommeil en ce moment. Parce que j'en suis tout le temps.
Je dors pas bien du tout.
La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur.
D'accord. C'est une question.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il a pas parlé pendant une heure. Si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse?
Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas attraper Karine Pélisson.
Ah, elle a la tête.
Non, elle était grande.
D'accord, alors...
Brune, ouais. Brune, elle avait les... Tu sais, elle avait les...
Ah, des boucles, elle...
Non, les...
Ah, des dreads.
Non, des soucis dans sa tête.
Non, mais ça, c'est pas vous, ça.
Ah bon? C'est quoi, moi, alors?
Il y a pesto, des pesto.
Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème.
Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça.
Faites confiance à la vie.
Et vous avez le droit d'être heureux.
Vous avez le droit d'être heureuse.
Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive.
Deux mois, film de Cédric Lapiche. Premier sentiment, Lily Bloom.
C'est une comédie romantique, douce amère, mi-réussie, mi-ratée pour moi.
Lucille Como.
Moi, je trouve que c'est un film qui est surtout intéressant pour la manière dont il regarde le cinéma de Lapiche.
Charlotte Garçon.
Superficiellement profond et profondément superficiel.
Voilà une belle formule. Lily Bloom va développer son point de vue.
Eh bien, c'est juste une réflexion, mais je me suis demandé pourquoi il ne s'intéressait pas à des personnages de son âge. Non mais réellement, en fait, parce que je me suis dit qu'il avait fait un petit peu le tour sur la thématique de cette jeunesse, ces trentenaires finalement. Je me suis dit pourquoi il s'intéresse encore aux trentenaires, a-t-il quelque chose à dire sur ces trentenaires? Bon, j'aimerais quand même commencer par quelque chose de positif, parce que bon, pour défendre quand même c'est Cédric Lapiche. A priori, c'est un projet plutôt charmant. On attend pendant 1h50, on espère, une rencontre entre deux personnages. Après, moi, c'est la partie qui m'a le moins intéressée, la partie romantique, parce que ça induit un aspect systématique et qui manque un peu de tenue cinématographique, c'est qu'on passe sans cesse de la vie de l'un à l'autre dans une volonté de montrer leur vie mimétique chacun. Donc c'est ces deux voisins qui vivent dans deux immeubles collés et qui sans cesse se croisent au supermarché, dans le métro, sur le trottoir, sans se voir. Et donc, dans un premier temps, il y a un certain charme à les voir s'entrecroiser, s'entrechasser sans se voir. Et puis, ça devient devient au fur et à mesure du film programmatique et l'ennui arrive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il y a une clapiche touch, j'aime bien qu'ils soient revenus à Paris, qu'ils se disent, bon, bah, qu'est-ce que j'ai encore à raconter sur cette ville, qu'ils prennent un autre quartier, je trouve qu'il, sa chronique de quartier fonctionne bien, comment il croque, il parle de l'infra-ordinaire, comme Georges Perec. C'est vrai que dans un premier temps, on pense à un homme qui dort, dans la première partie du film, et ça, c'est intéressant, et je trouve qu'il y a sa maturité de metteur en scène qui apparaît dans cet effort-là. Il arrive à faire du cinéma avec un choix de pesto au supermarché, il arrive à faire ressentir des petits frémissements d'âme, et il met ça en parallèle. Il y a une métaphore dès le début du film, parce que Georges Perec parle des trains. Ce qui l'intéresse, c'est les personnages comme des trains qui ne déraillent pas. Là, on est face à des rails. Et finalement, il filme deux solitudes. C'est deux personnes arrêtées alors qu'il y a le tumulte de la ville autour d'eux. Et il s'intéresse à eux. Ça, c'est vraiment la partie intéressante. Mais j'ai un problème sur le fond. Voilà, ce qu'il a raconté sur l'amour 2.0 avec un peu une philosophie de comptoir, de la technologie c'est mal, alors que bon, s'il était un peu moins banane, il se serait déjà rencontré sur Tinder en début de film. Est-ce que c'est si mal finalement les réseaux sociaux? Je trouve que ça reste très très en surface et que c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de lui et ce qu'il aurait à raconter. Voilà.
Charlotte Garçon.
Oui, c'est vrai que j'ai appris autant sur l'amour, autant des applications que j'ai appris dans Double Vie d'Olivia Assayas sur le passage du livre au numérique.
C'est-à-dire à peu près rien, c'est ça que vous voulez dire?
Non seulement rien, mais on se sent vraiment pris pour un idiot. Et je trouve que qu'il y a un problème d'écriture, c'est vrai. Un problème de mise en scène, parce qu'il y a effectivement quelque chose de très systématique à ce montage alterné de ces vies dont on attend pendant deux heures qu'elles se croisent. Mais c'est pas tellement le fait que ça échoue en tant que retravail de la comédie romantique qui me fâche. Encore que, moi, récemment, un film comme En liberté de Pierre Salvadori plaisait ou déplaisait, mais il y allait très 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 franco, franchement. Et prenait des risques. Et justement, c'est cette absence totale, mais totale, de prise de risque qui, au fur et à mesure que le film se déroulait, me faisait vraiment fulminer devant ce dictionnaire des idées reçues et qui culmine dans le propos du film sur la psychanalyse. Cédric Lapiche étant...
Parce que les deux vont consulter.
Étant fils de psychanalyste, comme il se plaît à le dire. Et là, vraiment, j'ai même relevé les phrases, les conseils des psychanalystes. Ayez confiance en vous, la fragilité, ça peut être une force, vous avez le droit d'être heureux. Voilà, bon, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Je me dis, si c'est ça le dispositif de l'analyse, si c'est ça le rapport à la parole et au silence qu'on établit dans une cure, enfin, au secours, je veux dire, partez, vous êtes en train de vous faire arnaquer, il y a quelque chose de l'ordre du charlatanisme, et tout ça est montré comme finalement un portrait, parce qu'il y a deux personnages hein, de psychanalystes, un homme et une femme, puisque chacun a son psy, et je veux dire, si... C'est ni satirique, puisque c'est affectueux. Tous les portraits sont censés être affectueux. Donc le côté eau tiède se projette à la fois sur les deux personnages principaux et sur leur psy respectif. Il ne s'agit pas ici de satire, il ne s'agit jamais d'être mordant. Et en même temps, vraiment, je pense qu'on a l'impression qu'il pense sincèrement montrer quelque chose, par exemple, de la relation analytique. Et ça, là vraiment, là, je au secours.
Allez, on va faire intervenir une amatrice du cinéma de Cédric Lapiche, Lucille Comeau.
Oui, quand j'entends « au tiède », c'est vrai, je pense que je m'épanouis, je trouve ça assez confortable en fait, comme cinéma.
L'eau tiède?
Oui, oui.
Vous aimez l'eau tiède?
Non, je suis assez fascinée quand même par la capacité de Lapiche à repasser par-dessus les mêmes motifs depuis quand même 30 ans, et d'y voir quand même toujours quelque chose qui fonctionne dans son empathie, dans la manière dont il présente les personnages. Moi, j'aime assez, même si j'en vois tous les ressorts et l'artificialité, cette espèce de Paris de quartier qu'il filme, ses plans sur les fenêtres, je les trouve assez beaux, je les trouve assez convaincants. C'est vraiment le Paris totalement fantasmé de la mondialisation heureuse, où on va chez l'épicier du coin et où il nous conseille sur les meilleurs pestos. Enfin bon, il y a quelque chose en effet de profondément artificiel et qui est potentiellement assez énervant, mais... Oui. Mais qui, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne chez moi. Je pense que, en effet, sa manière de voir les trentenaires d'aujourd'hui, il peut plus le faire comme il le faisait pour Chacun cherche son chat, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est un film qui date de 1996, qui est presque le même film, puisque il y a aussi, voilà, et la morale finale, c'est aussi, il y a rien mieux que son voisin finalement, et puis le chat, il y a un chat aussi pour faire le lien entre les deux. Mais justement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans l'échec de ce film-là par rapport à Chacun cherche son chat. C'est-à-dire que là où dans Chacun cherche son chat, le personnage principal était une jeune fille qui était assez finement construite comme personnage, il y a un énorme problème de construction des deux personnages principaux de cette comédie romantique auquel on ne s'attache absolument jamais. Moi, je trouve que François Civil, que je ne connais pas bien, donc qui est l'acteur principal, est d'un falot, mais je vois pas l'intérêt de ce personnage et de l'acteur. Anna Girardot, j'ai jamais trouvé que c'était une très bonne actrice. Là, je la trouve aussi assez pâle. Et en revanche, toute la galaxie de personnages secondaires qui se développent autour d'eux, notamment ses parents à lui, parce qu'il a vécu une histoire familiale un peu traumatique, donc parfois il rentre chez lui. Il y a des tout petits moments, parce que c'est pas facile de faire vivre des personnages en quelques scènes de vie familiale que je trouve assez convaincant. Le pharmacien, les psys, je suis d'accord, c'est une catastrophe. D'ailleurs, j'avais complètement refoulé cet aspect du film.
Ah oui ?
Ah oui, complètement.
Pourtant, il est présent.
Ouais, c'est quand
Camille Cotin et François Berléand.
En fait, il y a quelque chose de très fin entre son côté vraiment réactionnaire. Clairement, je n'arrive pas à voir la nouvelle génération et je n'arrive pas à en faire un film. Et son côté nostalgique qui, je pense, me plaît. La nostalgie de son propre cinéma. Ça n'est plus Chacun cherche son chat. C'est plus possible de faire Chacun cherche son chat dans le Paris d'aujourd'hui. Ça se voit dans le film et il y a quelque chose, paradoxalement, qui m'y attache, du coup.
C'est une vision très romantique hein, du cinéma de Clapiche, on aura bien compris. C'est votre subjectivité qui est là pour être énoncée. Je vais prendre un tout petit peu la défense que je m'apprêtais pas forcément à faire, en tout cas sur les interprètes principaux. Les personnages sont faits pour être pâles. Enfin, pour moi, c'est absolument le sujet même du film, quasiment. Donc, vous leur faites un reproche qui, pour moi, et je n'avais pas vu François Civil, je ne suis pas sûr d'avoir vu avant Anna Girardot à l'écran. Comme Charlotte Garçon opine, je lui donne la parole, parce que j'avais d'autres choses à dire, mais comme elle est d'accord avec moi pour une fois.
Oui, j'opine, parce qu'effectivement, il pose qu'ils sont dépressifs. Enfin, c'est sa vision de la dépression, c'est-à-dire elle-même tiédasse.
Oui, parce que ce n'est pas la même
chose. Non, mais
ils sont dévitalisés.
Mais je ne pense pas qu'ils soient en dépression, ni l'un ni l'autre. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui est dit.
Si, c'est ce qui est...
Ah bah lui,
sur la tiédeur, je suis pas si d'accord que ça, parce que justement, c'est ce qui l'a intéressé.
Oui.
Moi, c'est pas ce qui me dérange. Alors, on va pas l'accabler, mais moi, François Civil, j'ai du mal avec sa partition, parce que je trouve que Cédric Lapiche, son cinéma fonctionne aussi quand il est au contact d'un acteur très impulsif, très...
Mais c'est pas Romain Duris, on l'a remarqué,
voilà,
oui.
Et j'ai un peu regretté.
Mais moi, je trouve qu'il a beaucoup de charme.
Il a beaucoup de charme, c'est un très bon acteur, mais très en contrôle de son jeu. Il y a des micro-temps, souvent, quand il reçoit les répliques de Anna, des autres. Et ça témoigne d'une volonté de contrôle qui, moi, m'agace un petit peu et me met en recul par rapport au personnage.
Ce qui m'a frappé, c'est qu'il joue exactement comme Alexandre Astier. mais c'est une mimésie, c'est assez.
C'est une génération, c'est un effet.
Parce qu'il a beaucoup regardé Kaamelott.
C'est un peu des anti-Devers, mais avec beaucoup de talent, mais j'ai besoin un peu de faille, de gouffre chez un acteur pour qu'il m'intéresse. Et il y a effectivement tout le long du film comme s'il avait une difficulté à trouver le ton réellement de son film. Effectivement, l'aspect mélancolique m'intéresse et la maîtrise tout de même de la mise en scène avec de belles inventions et puis une maîtrise et puis tac, d'un seul coup, il s'en prend un sujet qui...
Non, mais j'ai cité aussi le co-scénariste Santiago Amigarena, qui est un écrivain tout à fait respectable, parce que c'est intéressant que ce soit quelqu'un qui est du même âge, de la même génération, je pense que c'est avec Lapiche, qui écrive ce film sur ses trentenaires, et je pense que le décalage qu'on ressent tous, il est quand même aussi, il se pose au scénario. Il y a une chose que je trouvais bien, c'est le son d'alarme des trottinettes. Voilà, là on sait qu'on est en 2019 et c'est plutôt bien vu. Charlotte Garçon.
Alors, puisque lui il fait du sous Freud, moi je voulais faire du sous Lacan.
Attention.
Puisqu'à un moment, il y a des
deux mois. Vous avez... Le titre.
Oui, bien sûr. Il y a des cours de danse qui s'appellent le compas. C'est une danse qui est vraiment d'origine haïtienne.
Et attention, sens venir de loin.
Non, non. Et à un moment, les deux personnages vont s'effleurer peut-être plus quand ils regardent une scène qui, moi, m'a assez... C'est une séquence qui m'a assez choquée. Ils regardent un incendie en face de chez eux et une dame avec ses enfants qui est dans la rue parce qu'il y a eu un incendie. Visiblement, c'est un immeuble insalubre. Et c'est la compassion. C'est leur compassion qui les lie. Et bon, à la fois cette idée de compassion, je trouve que ça va tout à fait c'est dans l'air du temps.
Ah, compas, compassion, voilà. Je vais comprendre. Je crois que c'était compas, pas con.
Et en plus, pas con. Voilà. D'accord. Et moi, je pense inconsciemment, il pose son spectateur comme étant fondamentalement un imbécile à qui il va raconter des choses. Sur l'amour, sur la psychanalyse, avec un surplomb qui, moi, me... Enfin, cette scène, c'est entièrement la psychologie des deux personnages qui regardent, au détriment de la violence qui est regardée. On oublie complètement cette violence.
Conclusion, Lucille Comeau, sur deux mois de série Clapiche.
On va en reparler sans doute après sur la vie scolaire, mais en effet, la question du point de vue empathique est un problème. C'est de fait un problème au cinéma, je pense.
Ce sera le mot de la fin concernant cette séquence consacrée à deux mois de Cédric Clapiche qui est sorti sur les écrans mercredi dernier.
Vai a posto, ma cosa succede? Fermati qua!
No, c'ha ragione sempre!
Ti sembra una ragione sufficiente per litigare?
Avrei dovuto punire i colpevoli. Loro se l'aspettavano. Sergio mi ha detto, se mi sospende mi fa un favore. E aveva ragione dal suo punto di vista.
On va parler de la vie scolaire, on en parle déjà dans ce coup de cœur de Charlotte Garçon ce soir pour Journal d'un maître d'école. C'est un film en série en 4 épisodes de Vittorio De Seta de 1973 qui connaît une sortie livre et DVD à l'Arachnée, hein, Charlotte.
Oui, quelle belle maison d'édition que j'ai découverte à cette occasion. L'Arachnée, c'est le titre d'un texte de Fernand Deligny et cette maison d'édition publie également Fernand Deligny, figure majeure de l'éducation spécialisée. Il y a un lien. Alors ce Diario di un maestro, effectivement, c'est un film véritablement de Vittorio De Seta. Et si vous avez vu ses courts-métrages des années 50, du milieu des années 50, sur les déshérités, on peut dire, de l'Italie, c'est-à-dire beaucoup l'Italie du Sud, des bergers sardes, des veuves siciliennes, des pêcheurs. Il y a une veine ethnographique très très forte dans son cinéma documentaire. Et en même temps, il décrit le documentariste comme un athlète. Donc il y a vraiment une sorte de sport, c'est un sport que de filmer le réel dans ses documentaires. Et ici, en fait, c'est une sorte de fiction. C'est-à-dire qu'il s'est emparé d'un vrai journal qui a été publié, d'un vrai journal d'instituteur qui a été publié. Et quand il s'est documenté pour l'adapter en fiction, eh bien, il s'est aperçu qu'il y avait tout un mouvement en Italie d'éducateurs, d'enseignants, de pédagogues que lui ne connaissait pas, puisque comme nous tous, si on n'est pas de la partie, voilà, et qui était l'école nouvelle depuis les années 50. D'obédience Célestin Freinet, etc. Et donc il s'est plongé là-dedans et finalement il a fait quand même jouer l'instituteur par un acteur magnifique qui est mort très jeune mais qui ressemble un peu à Pasolini, qui a vraiment une forte présence. Cet acteur vient du Sud mais il débarque à Rome et il va prendre une classe poubelle. On décrit vraiment la classe comme étant une classe poubelle de 16 garçons et il va commencer à aller les chercher chez eux. Et là, eh ben, chez eux, il voit qu'ils habitent des bidonvilles, etc. Donc c'est pas encore la street, comme on en parlera dans la vie scolaire, mais c'est quand même des gens qui ont une expérience de la rue, et il va devoir inventer des méthodes pédagogiques qui sont évidemment à l'opposé, qui sont anti-maître. C'est un maître d'école, mais c'est vraiment anti-magistral. Et d'ailleurs, il y a un geste très fort qu'il fait, c'est qu'il enlève l'estrade et il la met contre le mur. Et comme il y a un côté creux, et ben ça fait une place pour mettre des livres. Ça devient une bibliothèque. C'est très beau, mais c'est surtout très beau parce que ça a inspiré Vittorio De Seta pour sa manière de travailler. C'est quelqu'un qui cherche. Et donc, comment faire un film qui ne soit pas lui-même un film magistral sur cette expérience-là? Eh bien, parfois, il se tenait hors de la classe. Il a laissé beaucoup de liberté à son acteur, aux élèves, qui étaient des élèves payés, hein, qui étaient des non-acteurs, des non-professionnels, mais payés le matin. Et puis, ils avaient la vraie classe l'après-midi. Et puis, il y a beaucoup d'improvisation. Mais en tout cas, le travail qui est fait est vraiment un travail scolaire. Je trouve ça extraordinaire. Et surtout, bien sûr, il se remet en cause en tant que directeur, directeur au sens anglais, en tant que cinéaste. Et c'est ce double mouvement entre le maître d'école qui renonce un petit peu à son pouvoir et le cinéaste qui renonce aussi à sa maîtrise qui rend ce film exceptionnel, hein, vraiment comme expérience cinématographique.
C'est un livre DVD sur une idée de Federico Rossin, de ce journal d'un maître d'école, en 4 épisodes de Vittorio De Sette. Un film de 1973, c'est publié à l'Arachnéen.
S'il vous plaît, on s'écoute un peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra.
Sauve-toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps.
On court pas dans les couloirs.
Pourquoi, madame, je marche vite.
Le journal de la dispute, et Lucille Como ouvre ce soir son journal à la page éducation.
Oui, il y a un film français en ce moment qui caracole en tête du box-office, et ce n'est ni le pseudo-sulfureux Fille facile de Rebecca Zlotowski, ni la fête de famille de Cédric Kahn au casting racoleur, qui ont des chiffres plutôt décevants. Non, c'est La vie scolaire, le deuxième long-métrage de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui est sorti le 28 août dernier, quelques jours avant la rentrée des classes. Près de 800 000 spectateurs ont vu le film en 10 jours, qui est projeté dans des salles de plus en plus nombreuses, près de 450 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce donc que La vie scolaire. Comme son nom l'indique, ça se passe dans un collège, celui du quartier des Framboisins à Saint-Denis, un collège réputé difficile où l'on suit la première année de Samia, interprétée par Zita Enro, jeune conseillère principale d'éducation qui se voit confrontée à des problèmes de discipline, à la misère sociale, à la difficulté des enseignants, mais aussi à l'humour des élèves qui rivalisent de blagues et de bons coups pour faire rigoler les pions, les profs et les spectateurs. Les deux réalisateurs ont tourné dans le dit quartier de Seine-Saint-Denis le temps d'un été, avec des acteurs dont la plupart ont été découverts sur place, notamment Liam Pierron, celui qui interprète Yanis, jeune protégé de la CPE dont le père est en prison, tiraillé entre sa volonté de s'en sortir et la tentation de la rue. Le film n'est pas seulement populaire parmi le grand public, il rassemble aussi les suffrages de la critique qui, dans l'ensemble, loue plutôt la réussite de cette comédie sociale, avec peu ou prou les mêmes arguments. Son habileté à naviguer entre gravité et légèreté, à ne pas basculer dans le pathos tout en n'évitant pas les sujets qui fâchent avec humour, entendre « c'est un film de gauche ». Son humanisme et sa générosité, le point de vue serait profondément bienveillant sur ces jeunes des quartiers et donnerait une autre vision de la banlieue, entendre « c'est un gentil film de gauche ». Enfin, sa justesse, c'est certainement le mot qui revient le plus. Le film serait juste, donc vraisemblable, réaliste, soulèverait les bons problèmes, entendre « c'est un gentil film de gauche qui tombe bien ». De fait, la vie scolaire tombe bien dans un paysage cinématographique français qui semble donner de plus en plus de place au genre de la comédie sociale, ce genre réputé typiquement anglo-saxon. Un article du Monde datant d'il y a quelques mois citait notamment les films de Louis-Julien Petit, Discount et Les Invisibles, dont les succès au box-office avaient déjà surpris. Des films au générique desquels on lit à la ligne coproduction, tout comme pour La vie scolaire, le nom de Marc Ladret de la Charrière. Ce même Marc Ladret de la Charrière, milliardaire, propriétaire de nombreuses salles de spectacle, financeur d'une fondation destinée à aider les jeunes issus de l'immigration qui semblent avoir flairé le bon filon de la comédie sociale qui tombe bien. Alors comment expliquer ce consensus autour de La vie scolaire? Qu'en avez-vous pensé et que représente-t-il selon vous dans le cinéma français aujourd'hui?
Voilà, ça fait une série de questions ça. Lily Blum, tiens, va commencer à vous répondre.
Eh bien je crois que c'est toujours... comment dire, la comédie sociale, elle naît toujours d'une conjoncture politique. D'ailleurs, certains types de comédies aussi. Par exemple, en Angleterre, c'est né essentiellement du sentiment des classes populaires. Enfin, je pense que ça vient de là. C'est une forme de réaction à un gouvernement, une personne, en l'occurrence Thatcher, qui, par son... Alors le sentiment qu'elle laissait de son mépris des classes les plus pauvres a déclenché finalement une vague de comédie sociale à l'anglaise, donc des films qui font du bien, qui traitent des sujets d'actualité. Alors en France, ça va être les banlieues, le déclassement, tout ce qu'on peut trouver, mais avec un ton léger pour des personnes aussi qui ne vont pas forcément tous les jours au cinéma, qui n'ont pas envie d'avoir un film lourd sur le sujet. Donc voilà, c'est un moment où on a besoin, entre guillemets, de films doudous, de voir des acteurs en miroir de ce que l'on est en train de vivre et des problématiques qui nous occupent. Et peut-être, pour d'autres, de se donner bonne conscience devant des films dont finalement ils sortent indemnes. C'est toujours une conjoncture. Aux États-Unis, il y a eu la presque décennie de la bande de Judd Apatow sous l'ère Bush. Et nous, finalement, les comédies sociales sont nées à l'ère Sarkozy. Et donc finalement, c'est assez logique. Et comme ce sentiment se renforce aujourd'hui, et bien bizarrement, il y a presque des courbes qui se suivent, quoi, finalement, entre un sentiment populaire et une exploitation de ce sentiment-là au cinéma et donc un succès au box-office.
Charlotte Garçon, regard sur ce film aussi, La vie scolaire, que vous avez été voir.
Oui, on a l'impression que plus la violence du réel est grande et plus justement la tiédeur des films qui les mettent en chronique fictionnelle est vaste aussi. Quoi. C'est étonnant quand même cette espèce de culture de la bienveillance. Et autant c'était déjà le cas pour Patient que je n'avais pas détesté. On peut pas dire que ce soit un cinéma justement horripilant comme pour moi celui de Cédric Clapiche, mais parce qu'il donne pas de leçons. Parce qu'il a une forme de modestie qui fait un travail honnête avec ses acteurs. Et on voit bien qu'il y a du travail. Mais c'est un peu le problème d'être scolaire pour un film sur l'école. C'est quand même un petit peu un problème. Et surtout, si on habite près de Paris ou à Paris, on est forcément en lien avec des gens qui vivent dans la réalité et notamment d'un département en particulier qui est la Seine-Saint-Denis, qui rencontre énormément de problèmes. Un absentéisme et des élèves et des enseignants surdéterminés hein, pour plein de par exemple ça c'est pas du tout dans le film. Le film montre une petite communauté avec ses problèmes, mais à part un deus ex machina, une mort accidentelle hors collège, finalement tout cela est assez rondement tenu dans des limites tout à fait psychologisantes finalement, alors qu'il s'attaque à une violence du système qui est explosive. C'est ça qui est frappant, quoi. C'est ce côté tout doux d'un film qui, quand même, parle de lieux où c'est plus qu'explosif. On est au-delà. Donc, voilà.
Oui, mais c'est la différence entre. Là, on parle de comédie sociale à la française. C'est vraiment le sujet. C'est pas Ma cité va craquer. C'est La vie scolaire que j'ai vu seulement cet après-midi, qui est effectivement qui a plein de qualités d'écriture, d'interprétation.
Qui est très drôle, qui fonctionne.
Alors d'empathie, parce que vous en parliez, on est dans l'empathie à peu près générale. Un film doudou, je sais pas si vous disiez ça. Alors moi j'ai pensé à Blackboard Jungle, ce qui ne nous rajeunit pas, dont j'ai oublié le titre original. Le titre français le plus exactement, avec Glenn Ford qui raconte comment un jeune professeur arrive dans un collège, dans un quartier difficile. On est dans les années 50. Et c'est à peu près le même film, les mêmes sentiments. Cette idée que le corps enseignant effectivement peut effectuer un travail formidable. Donc merci, bravo à l'éducation nationale. Ce film-là doit faire du bien à pas mal de professeurs qui se sentent sans doute souvent méprisés, maltraités, peu considérés. Donc il y a la volonté quand même dans ce cinéma-là. Et moi, ça m'a fait aussi penser au Grand Bain, qui était quand même le grand succès français de l'an dernier. On est ensemble, on peut créer du lien, on peut recoudre les mots des uns et des autres, Emma Huix, en étant ensemble, tout droit dirigé vers le même but. Il y a quelque chose qui est vieux comme l'art aussi, de parfois faire juste là, être ensemble pour se faire du bien. Lucille Comeau.
Oui, moi, je suis très circonspecte devant ce film. J'ai l'impression de tomber vraiment dans un piège. C'est-à-dire que l'émotion, je la ressens, j'ai ri et j'ai pleuré.
Mmh, moi aussi,
Mais ça me gêne profondément. Et je pense que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se départir devant ce type de film. Et c'est peut-être une très bonne chose qu'on n'y arrive pas. De la question de la représentativité. C'est-à-dire qu'est-ce que ça représente tous ces individus et ces individualités-là. Et même ces individualités qui sont en bon lien, en bonne entente d'un collectif. Et en effet, il y a un gros problème de représentation du collectif dans le film. Là, je rejoins Charlotte. Moi, à mon avis, le problème de la vie scolaire, c'est que l'école, elle est prise comme un îlot. C'est-à-dire un îlot à l'intérieur desquels, finalement, les problèmes ne rentrent pas. Il y a beaucoup de plans, d'ailleurs, sur la grille, et rentrer, sortir, avec son carnet de correspondance, ou pas son carnet de correspondance d'ailleurs, arriver en retard. Mais tous les problèmes, les vrais enjeux de la misère sociale de ce territoire-là, ils restent à l'extérieur. Et les très très rares moments où la caméra ose des excursions, on est sur un niveau d'angélisme qui, pour le coup, pose beaucoup plus de problèmes que les scènes à l'intérieur des classes qui, à mon avis, représente quelque chose des rapports sociaux, des rapports de classe, des rapports de lutte qui peuvent être un tout petit peu intéressants. Mais en effet, bon, il y a une scène dont Charlotte a parlé, on va peut-être pas non plus dévoiler tout le film, mais qui est vraiment, qui cristallise le drame, qui est d'abord, très étonnamment, en effet, un accident de voiture, alors que c'est peu représentatif de, justement, enfin, c'est quelque chose de totalement arbitraire, c'est pas motivé par le système social dans lequel vivent ces jeunes. C'est très problématique pour moi. J'ai été très mal à l'aise par rapport à cette scène.
Charlotte Garçon.
Effectivement, et là, je rejoins ce que j'ai dit sur le film de Vittorio De Sica de 1973, c'est-à-dire que là, l'école est montrée, et c'est quand même une vue assez convenue et un peu paresseuse quand même, comme un sanctuaire. Un antidote aux maux de la société. Mais il y a des gens qui réfléchissent à tout ça quand même aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet assez brûlant, donc c'est un petit peu naïf d'y aller comme ça sans véritablement, je trouve, y réfléchir plus que ça. Et justement, dans le film de De Sica, ce qu'il montre, c'est que l'école doit être ouverte. Mais alors là, il faut exploser le programme. Mais l'école doit être ouverte et faire venir dans la classe les parents. Et ce qu'il y a de très beau dans ce film, c'est qu'on voit des immigrés du Sud qui vivent à Rome et qui racontent ce que c'est que travailler, voilà, et qui parlent à la classe, des pères d'élèves qui, pour la première fois, racontent leur histoire pendant le fascisme, etc. Et ça devient un cours d'histoire. Bon, tout ça, par exemple, ça n'est pas une option du tout. On n'y pense jamais parce que ça intéresse plus du point de vue de l'écriture, pour être modeste, justement, pour pas embrasser plus qu'on ne peut écrire quand on est un réalisateur débutant, malgré tout. C'est des gens qui font du cinéma, qui ont déjà... Et bien, finalement, on laisse ce milieu comme étant un milieu fermé. Et du coup, on ne pense pas à des questions d'innovation pédagogique. Et du coup, on n'ouvre pas non plus, je pense, aux élèves, au travail d'improvisation qui a sans doute été fait, enfin, et de répétition avec les élèves. Bah, il en reste quelque chose d'assez plat. Il manque une énergie. Il y a quelque chose qui a été mis quand même sous le boisseau, je trouve.
Et Blum ?
Moi, ça me dérange pas tant que ça, finalement, que ça reste un dernier bastion d'espérance. En fait, l'école, parce que déjà, d'une part, j'ai pu l'expérimenter en ayant enseigné en lycée en Seine-Saint-Denis. Et il y a une véritable volonté et réelle, et des professeurs extrêmement engagés, comme j'ai rarement vu, pour que cela reste un bastion d'espérance. Et pour moi, ça, parce que moi, il peut m'arriver d'avoir envie de hurler devant certains films, justement, en raison de l'angélisme vraiment trop poussé et qui, du coup, devient complètement contre-productif par rapport aux enjeux. Là, finalement, le fait que les réels problèmes, entre guillemets, restent à l'extérieur de la grille, et bien finalement, ça m'a fait passer un moment avec ces élèves-là, et je me suis moins posé de questions, et je l'ai plus vu, pour le coup, sur l'angle de la comédie que de la comédie sociale, et je me suis fait embarquer par le film.
Lucille Comeau ?
Oui, c'est... En effet, on ne se pose pas de questions. Je me demande en quoi c'est représentatif qu'on ne se pose pas de questions devant ce type de film. Moi, je me suis posé des questions très tard, par exemple, par rapport à la vision du film que j'ai vu quand même il y a la semaine dernière quand c'est sorti. Notamment, quand même, le fait que parmi tous ces héros, parce que ce sont des héros, il y a vraiment des personnages qui sont choisis à l'intérieur de la classe et qui sont choisis, c'est un peu le Jamel Comedy Club quand même, ils sont choisis pour leur capacité à bâcher, à faire rire, à être dans la tchatche. C'est très drôle. Il n'y a pas une fille parmi ces personnages-là. C'est-à-dire que les filles sont absente du fonctionnement de... Mais c'est probablement une réalité. J'en en doute pas. Mes amis qui sont profs me parlent absolument tout le temps de garçons dans leur classe et jamais des filles.
Ouais.
Sauf que cette réalité-là, qui est probable, elle n'est jamais interrogée. Elle n'est jamais montrée.
Le film ne peut pas tout interroger. Vous lui demandez beaucoup.
Mais là,
à ce
film. Non, mais là, il interroge rien. C'est...
Oh.
Non, mais c'est de toute façon, je me pose vraiment la question de ce qu'on peut faire, dans quel genre cinématographique aujourd'hui, en France, on peut aborder, enfin filmer ce milieu-là. Vraiment, parce qu'à chaque fois, quand on a des films naturalistes, on se pose des questions qui sont différentes, mais qui sont aussi des questions de représentativité. Quand Divine est sorti il y a quelques années, moi j'avais détesté le film, ça m'avait mise dans un état pas possible. Je ne sais pas ce que le cinéma français peut faire de cette question et de ce milieu. Je ne vois pas.
Charlotte Garçon, pour conclure.
Si on peut rappeler l'existence de la série documentaire de Mariana Otero, La loi du collège, qui date certes de 1994, mais qui était aussi dans un collège de Seine-Saint-Denis, et c'était 6 épisodes de 26 minutes.
Il est sorti à DVD, hein, dont on a parlé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que cela. C'est un bon rappel. Le documentaire, c'est encore
dans la fiction, c'est compliqué.
Le documentaire, c'est compliqué, la fiction encore plus, mais écoutez, on va guetter toutes les sorties qui pourraient nourrir ce débat qui est loin d'être clos, mais pour autant, on referme les pages de votre journal, ma chère Lucille. Avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure de retrouver David Dana pour le jeu de la dispute. Un jeu qui posait une question hier, qui attendait une réponse. Les voici.
Quel artiste a eu une carte blanche à la Maison européenne de la photographie en 2018? Et la réponse est JR.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le spectacle secret temps 2 de Johan Le Guilherme. Des places à gagner pour mardi 24 septembre à 20h à l'espace Chapiteau de la Villette à Paris. Quelle est la question, David?
En quelle année le spectacle secret temps 2 a-t-il été créé?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et David Dana. La prise de son ce soir d'Ali Egar, réalisation Émilie Vallat. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute théâtre en compagnie de Marie Sorbier, Thomas Corlin et René Solis. Nous parlerons de La vie de Galilée de Brecht montée par Claudia Stavinsky, Dans le frigo d'après Copy, mise en scène Clément Poiret, Striptease 419 d'après l'émission Striptease, mise en scène Paul Lourdeau.